Radio Kapi. Coupe du Monde 2026, liesse nationale après l'exploit des Léopards, la RDC qualifiée pour les 16e de finale, Kinshasa et toute la diaspora en fête. Ebola, l'OIM alerte sur les risques de propagation. Un plan régional de 55,8 millions de dollars pour protéger les populations en déplacement et renforcer la riposte dans 11 pays. Prix Ubora 2026, 4 entreprises congolaises distinguées. L'incubateur I&Fi, à travers son directeur général Val Massamba, qui est l'invité de ce journal, ensemble avec ses partenaires, célèbre l'excellence entrepreneuriale en RDC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du Journal du Matin. Commençons ce journal par cet exploit historique. Une liesse totalement légitime s'est emparée de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi, de Kisangani, de Mbandaka, de Bukavu, de Kananga et de toute la diaspora après la qualification historique des Léopards de la RDC en 16e de finale de la Coupe du Monde. De nombreux Congolais attribuent cette victoire au coaching payant de l'entraîneur Sébastien Desabre et croient que la RDC va laisser des empreintes au cours de cette Coupe du Monde. Suivez leurs différentes réactions au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Je suis très émue en tout cas, je suis très contente, je suis fière d'être congolaise. En tout cas, la RDC est loco makasi.
Oui, on a gagné, on est dans la joie parce que ça fait 52 ans qu'on n'était jamais parti jusque là. On est aujourd'hui, la Coupe du Monde est pour nous.
Je n'arrive même pas à m'exprimer, je n'arrive même pas, mais nous vraiment qui devait pisser au stade, finis-vous.
L'émotion est immense, je suis fier de mon équipe. Malgré tout le stress qu'ils nous ont donné en début de match, voir les changements que le coach a effectués, qui ont payé. L'Angleterre, c'est pas un problème. Donnez-nous même la France, on va gagner.
Au début, c'était un peu compliqué, mais après, ça s'est bien passé. Et puis avec les joueurs qui sont là, l'équipe est vraiment très bonne et on aime beaucoup. Cette équipe peut aller encore loin.
Écoutez, c'est une joie pour tout un pays qui a été absent pendant 52 ans, un pays et qui jusqu'aujourd'hui continue à subir des conflits à l'Est. Mais aujourd'hui, les 26 provinces sont en liesse. C'est vraiment une joie et on espère qu'on va affronter l'Angleterre et on va faire quelque chose.
Je suis très contente. Monsieur, reprenez mon émotion, s'il vous plaît. Oui, ça, je t'aime.
C'est comme un rêve. On ne savait pas qu'on va arriver jusqu'à ce point, c'est vraiment comme un rêve.
Sachez qu'avec le passage de la Coupe du Monde 2026 à un format de 48 équipes, la phase de groupe qualifie non seulement les deux premiers de chaque poule, mais aussi les 8 meilleurs troisièmes pour les 16e de finale. Voici l'état du classement des équipes ayant validé ou étant en excellente posture pour valider leur ticket parmi les meilleurs troisièmes au terme de la phase de poule. Il s'agit de la RDC 4 points, la Suède 4 points, le Ghana 4 points, l'Équateur 4 points, la Bosnie-Herzégovine 4 points, le Paraguay 4 points, le Sénégal 3 points et l'Iran 3 points. L'actualité, c'est aussi cette alerte lancée par l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM souligne en effet que la forte mobilité des populations accentuée par les conflits accroît les risques de propagation du virus Ebola. Dans un communiqué publié vendredi, l'organisation dévoile un plan régional de préparation et de riposte contre Ebola afin de renforcer la lutte contre l'épidémie. Cette épidémie qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo et s'est déjà propagée en Ouganda. L'agence onusienne annonce vouloir mobiliser 55,8 millions de dollars pour soutenir durant 6 mois les opérations de surveillance, la protection des populations en déplacement et le contrôle de la propagation du virus dans 11 pays. Plus de détails dans ce reportage signé Ella Chembalou.
Dans son communiqué, l'OIM précise que ce plan régional des 6 mois vise à intensifier la lutte contre Ebola dans l'est de la RDC et en Ouganda. Pour mettre en œuvre cette stratégie couvrant 11 pays, l'organisation sollicite 55,8 millions de dollars. À ce jour, 20 millions ont été déjà mobilisés, laissant un déficit d'environ 35 millions. L'OIM souligne que la forte mobilité des populations, accentuée par les conflits, accroît les risques de propagation du virus. Elle rappelle avoir déjà réalisé plus d'un million de contrôles sanitaires au point d'entrée et le long des principaux axes transfrontaliers. L'agence insiste sur l'importance de renforcer la surveillance, les dépistages et la sensibilisation des communautés. Cette mobilisation intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé a classé la flambée actuelle d'Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale. De leur côté, les autorités congolaises assurent que la situation reste maîtrisée et mettent en avant l'expérience acquise par la RDC dans la gestion des précédentes épidémies.
Un exemple de terrain à présent, nous allons en Ituri évidemment, là où la maladie à virus Ebola a commencé, là où hélas, les équipes engagées dans la lutte contre Ebola sont confrontées à plusieurs défis malgré leur soif de vaincre la maladie. À Nizi, précisément dans les territoires de Djougou, les autorités sanitaires alertent sur la poursuite de la transmission du virus et le manque d'infrastructures indispensables pour une prise en charge efficace. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
La situation demeure préoccupante dans la zone de santé de Nizi, au nord de Bounia. Les responsables sanitaires font état de décès communautaires enregistrés presque quotidiennement, signe que le virus continue de circuler activement au sein de la population. Face à cette évolution, le médecin chef des zones de santé de Nizi tire la sonnette d'alarme. Il dénonce le manque de personnel, de moyens logistiques et des ressources financières. Plus préoccupante encore, la zone ne dispose ni d'un centre de traitement d'Ebola, ni d'un laboratoire capable d'analyser rapidement les prélèvements alors qu'aucun patient n'y a encore été déclaré guéri. Le médecin plaide pour l'installation urgente de ces infrastructures à Nizi ainsi que des centres de transit à Lopa, Linji et Higa Barrière afin d'améliorer la prise en charge des malades et de limiter la propagation du virus. Selon les dernières statistiques de l'Institut national de santé publique, la zone de santé de Nizi compte déjà 30 cas confirmés, dont 6 décès. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Une nouvelle un peu plus gaie, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui assiste plus de 5000 ménages vulnérables. Nous sommes là dans les Tanganyika. Ces personnes affectées par des conflits ont reçu du cash et d'un trans agricole dans les zones de santé de Kalemi et Niemba. Ce projet est financé par le Fonds humanitaire en RDC et il entre dans le cadre du projet d'assistance vitale à la production agricole d'urgence en RDC. Des précisions avec Paulin Monanga.
D'après la FAO, l'objectif est de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire, d'améliorer la consommation alimentaire des ménages bénéficiaires et de protéger leurs moyens de subsistance grâce à une production agricole d'urgence. Ce projet est une réponse rapide aux besoins des populations affectées par les conflits. Les bénéficiaires ont reçu du cash, des semences maraîchères, d'un trans agricole ainsi que plusieurs outils aratoires, notamment des brouettes, râteaux, houes, arrosoirs, bêches et autres équipements destinés à faciliter la production agricole d'urgence. Les bénéficiaires, dont la plupart vivent depuis des années les conséquences des conflits, saluent ces gestes du Fonds humanitaire en RDC et de la FAO. Le ministre provincial des Affaires sociales et Action humanitaire du Tanganyika, Dr Benoît Malumbi, souligne que l'intégration de la composante agricole dans les interventions d'urgence va permettre aux bénéficiaires de produire rapidement des denrées alimentaires et d'améliorer leurs conditions de vie dès les premières semaines de mise en œuvre. Signalons que ce projet qui a débuté le 22 avril dernier va jusqu'au 21 octobre. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Autre actualité, la publication des résultats de l'examen d'État 2026 à travers tout le territoire national. À Latin-Philo, par exemple, le lauréat a obtenu 80% au lycée Sainte-Thérèse à Kinshasa-Tchangou. En pédagogie générale, le lauréat est crédité de 89% à l'Institut Imani dans la province éducationnelle Okatanga 1, tandis que dans la province éducationnelle Kasaï-Oriental 2, au lycée d'Itabadietou, le lauréat à la nutrition a obtenu 70%. Cependant, l'intersyndical des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale monte au créneau. Elle exige une augmentation des salaires des enseignants dès la paie du mois de juillet. Le porte-parole de cette structure a réitéré cette requête lors de l'Assemblée générale d'évaluation de l'année scolaire 2025-2026 tenue hier samedi à Kinshasa. Godefroy Matondo recommande également la signature du décret portant statut particulier des enseignants et celui des inspecteurs avant la rentrée scolaire 2026-2027. Basket. Godefroy Matondo au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
L'intersyndical recommande au gouvernement de la République ce qui suit. 1. L'augmentation des salaires des enseignants dès la paye du mois de juillet 2026, conformément à la loi des finances 2022. La surséance du décret fixant les modalités d'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire en République démocratique du Congo. Étant donné la spécificité de notre ministère, sollicitons une séance du travail avec les chefs du gouvernement sur les réflexions les plus approfondies. 3. La signature du décret portant statut particulier des enseignants et celui des inspecteurs avant la rentrée scolaire 2026-2027. 4. Les paiements des enseignants NP, NI, des intervenants des évaluations certificatives, des primes des inspecteurs et le deuxième palier de la prime d'encadrement de la paie des cadres et agents des services centraux. 5. La mise en retraite des enseignants par le gouvernement en vue de combattre le vieillissement constaté et déploré dans les établissements publics d'enseignement. 6. Une assemblée générale des décisions est prévue au mois d'août 2026.
Par ailleurs, cette organisation note qu'il est nécessaire que l'État publie les résultats de la mission de nettoyage du fichier de paye des enseignants afin de dégager la masse salariale tant attendue. Autre chose, 8 militaires de FRDC prêts à affronter les engins explosifs de guerre à Beni. Ils ont achevé vendredi une formation spécialisée axée sur la neutralisation, l'enlèvement et la destruction de ces dispositifs dangereux. Formation organisée par le service de lutte anti-mine de la MONUSCO UNMAS dans le but de renforcer les capacités des bénéficiaires afin de mieux protéger les communautés face aux risques liés aux engins explosifs déjà responsables de nombreuses victimes dans la région. Mais quelle utilité les participants accordent-ils à cette formation? Marc Marofimbo nous en dit plus.
Après une première phase en avril, 6 semaines de formation ont permis à 8 militaires des FRDC de renforcer leurs capacités en identification, neutralisation et destruction des engins explosifs. Pour le capitaine Paluku Kalubenge Sylvestre, participant, cette formation est essentielle pour sécuriser les populations.
Cette formation nous est utile. Nous devrons maintenant jouer le rôle de la sonnette d'alarme pour l'enlèvement des engins non explosés. La MONUSCO a fait sa partition. Elle nous a donné la matière, quitte à nous maintenant de la capitaliser.
Le vice-gouverneur du Nord Kivu a salué cet appui et souhaité voir ce type de formation s'étendre à la police nationale. Le commissaire divisionnaire Louis Sego Karawa.
Votre mission sera désormais de mettre ces savoirs au service de la nation, de vos frères d'armes et de la protection des populations civiles. Je saisis cette opportunité pour demander à UNMAS d'étendre ses formations aux unités de la police nationale congolaise et au centre congolais de lutte anti-mine afin de répondre aux besoins quotidiens de la sécurité des civils dans les zones anciennement sous le contrôle de groupes armés au Nord Kivu.
Une session spéciale est annoncée dans les prochains jours pour renforcer davantage ses compétences. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Des déplacés de la crise entre les communautés Mbole et Lingola à Kisangani, transformés en pâtissiers ou menuisiers. La première vague de ces personnes a pendant 2 mois suivi une formation qualifiante à l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP en sigle. Des compétences acquises pour leur autonomisation grâce au financement du Fonds National de Réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité via son partenaire l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral Sofepadi. Reportage Jacques Moukonkole.
Sur les visages, le soulagement se lit après 2 mois d'apprentissage intensif. Mais pour ces nouveaux artisans, la fin de la formation marque le début d'un autre défi, celui de l'installation. Sans outils, difficile de pratiquer. C'est le plaidoyer de cette bénéficiaire de l'atelier des coupes et coutures.
Ma demande est que vous puissiez me donner une machine. Fonarev nous a appuyés. Ce métier va vraiment me soutenir dans ma vie.
Cette réinsertion par le travail a exigé une approche pédagogique particulière de la part des formateurs face à un public qui, pour la plupart, n'a jamais fréquenté l'école. Un défi détail relevé par l'UNPP, comme l'explique sa directrice technique, Mariam Modebe.
Comme l'UNPP est là pour la formation des adultes, nous avions fait de notre mieux et nous les avons amenés à un niveau où nous estimons que ce que nous leur avons transféré peut leur aider dans leur vie.
Les cris du cœur des lauréats pour obtenir des kits d'installation a trouvé un écho favorable. Les assurances de Michael Kamana, chef de projet à la SOFEPADI.
Nous disposons aujourd'hui de 18 associations villageoises d'épargne et de crédit qui sont gérées par les déplacés eux-mêmes et qui à ce jour a atteint un taux d'épargne vraiment appréciable. C'est ces mécanismes-là qui constituent le noyau d'accès au crédit pour financer leurs projets entrepreneurial.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Revenons encore une fois au Nord Kivu où la vulgarisation de la nouvelle loi foncière du 30 décembre 2025 était au centre de notre atelier de deux jours qui s'est clôturé vendredi à Beni, organisé par la coordination provinciale de la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF en collaboration avec l'organisation Action pour la paix et la concorde. Cette activité visait à favoriser la compréhension et l'appropriation de cette loi par les acteurs clés de la gestion des terres. L'objectif, contribuer à la réduction des conflits fonciers dans la région. Marc Marofimbo, reportage.
Cette nouvelle loi foncière vise à contribuer à la prévention et à la réduction des conflits liés à la gestion des terres dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à travers la vulgarisation des réformes engagées dans ces secteurs. Elle introduit plusieurs innovations majeures. Selon les experts, au moins 22 nouveautés sont à signaler, notamment la numérisation du cadastre qui dépasse désormais le simple archivage pour intégrer un système moderne d'enregistrement des parcelles et concessions. La loi prévoit également la régulation des prix fonciers tant dans les milieux urbains que ruraux afin de limiter les transactions anarchiques observées auparavant. Elle instaure en outre des poursuites judiciaires contre les agents du cadastre en cas de faute liée au mesurage ou à la superposition des titres fonciers. L'accès équitable à la terre et la prise en compte de l'inclusion de la femme dans la gestion foncière figurent également parmi les innovations saluées par les participants. Les organisateurs attendent désormais de ces acteurs qu'ils relayent les informations auprès des communautés en vue d'une meilleure appropriation de la loi. Cette activité a réuni une cinquantaine de participants, notamment des cadres de libéralisme et de l'habitat, des chefs traditionnels et coutumiers, des représentants des peuples pygmées, de la société civile ainsi que du groupe technique de médiation. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Afrique du Sud, alors que de nombreuses organisations hostiles à l'immigration appellent à manifester le 30 juin pour exiger, entre autres, du gouvernement le départ des immigrés illégaux présents dans les pays, des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques et des représentants religieux se sont réunis en ligne samedi 27 juin pour condamner la stigmatisation des immigrés érigée en bouc émissaire de tous les maux du pays.
L'invité.
Quatre entreprises congolaises récompensées jeudi à Kinshasa. Cela entre dans le cadre de la deuxième édition du prix Ubora, organisé par l'incubateur INFI, avec l'appui de plusieurs partenaires, dont la Fondation Roi Baudouin et BioInvest. Ce concours vise à promouvoir l'excellence entrepreneuriale et la création des valeurs en RDC. Les lauréats recevront jusqu'à 25 000 euros, ainsi qu'un voyage d'affaires en Europe. Comment ont-ils été sélectionnés parmi 383 candidatures? Quels enseignements tirer de cette édition? Les explications de Val Massamba, directeur général de l'incubateur INFI. Il s'entretient ici avec Jocelyne Moussaoponde.
Professeur Val Massamba, bonjour.
Bonjour, madame.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce prix et plus particulièrement de cette deuxième édition?
Ce qu'on peut retenir, c'est que l'effort et entrepreneurial est toujours récompensé. Quand vous avez le père ou un jury international de gens de haut niveau qui arrivent à vous sélectionner parmi les meilleurs, eh bien, c'est une grâce, mais c'est parce que simplement vous avez fourni beaucoup d'efforts. Le prix Ubora récompense les entrepreneurs d'excellence, les entrepreneurs qui ont réussi à bien piloter leur PME, qui a un effort positif, un impact positif sur le développement du milieu dans lequel est évolué. Et donc la Fondation Roi Baudouin et BioInvest et la Fondation Adala nous a fait honneur de nous confier désormais l'organisation du prix Ubora à travers la RDC. Et voilà, pour la deuxième fois, on l'organise avec succès. Et puis voilà, on veut continuer et on encourage les entrepreneurs à fournir beaucoup plus d'efforts et pour essayer d'amener ce pays vers une indépendance économique.
Et combien de lauréats ont été sélectionnés et quels sont les prix qu'ils remportent?
Sur 383 candidatures que nous avons reçues, on a sélectionné 4 lauréats entrepreneurs. Dans les 4 lauréats entrepreneurs, il y a 2 de la catégorie PME qui sont toutes des femmes. entrepreneurs et vont bénéficier chacun de 25 000 euros plus un voyage d'affaires en Europe en février 2027 comme ce fut pour la première édition. Et puis on a deux autres lauréats de la catégorie nouvelle entreprise qui vont bénéficier d'une gratification de 5 000 euros plus encore ces voyages-là. On est content parce que c'est trois villes qui ont gagné. C'est la ville de Kinshasa, la ville de Bunia et la ville de Lubumbashi.
Et quels ont été les critères de sélection?
Oh, c'était lourd, hein. C'est, au total, ça fait à peu près, ça fait à peu près 20 critères d'éligibilité et environ 40 critères de sélection. Donc c'était lourd qui passe par
le
climat, hein, d'accord, l'effort fourni pour essayer de contribuer aux objectifs climat dans l'aspect écologique, la prise en compte du genre dans l'entreprise, la performance financière, la capacité à avoir un impact positif dans le milieu de laquelle on évolue. Ben voilà, il y a plusieurs critères et il y avait un critère discriminant à l'éligibilité, c'était l'obtention d'une assurance, responsabilité professionnelle et civile de l'entreprise, ce que beaucoup de PME n'avaient pas. Et puis il y a eu la visite d'entreprise pour essayer et la visite de manière instantanée, hein, des entreprises pour donner la crédibilité aux sélectionnés.
Et vous avez eu un appui financier pour pouvoir organiser ce concours?
Oui, d'abord nos propres ressources, parce que ça c'est un élément très important pour éviter la dépendance à d'autres. L'IF a mobilisé ses propres ressources pour rendre opérationnelle cette mission de prix Ubora. Après, on a eu le soutien de la Fondation Dala qui a donné un prix pour le PME. La Wallonie-Bruxelles qui a donné aussi un prix pour le PME. Et à Texaf, Fondation Bandeurna-Visso, Yakongo et Silicon Village qui ont aussi donné un prix pour cette activité. Il y a aussi Transform qui nous a donné un appui communicationnel très important dans son réseau pour inciter les entrepreneurs à postuler et bien d'autres partenaires qui étaient avec nous.
Professeur Val Massamba, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était notre invité Val Massamba, le directeur général de l'incubateur I&Fi, qui s'entretenait avec Jocelyne Moussaoponde. Voilà qui met fin à notre journal de ce matin préparé pour vous par Lievin Mbouinga-Voubou et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Place à présent aux informations sportives avec Blaise Ndongala Mayanda qui vient de me rejoindre dans ses studios. Bonjour Blaise.